Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21, du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaëlle et je suis la maman d'Arthur et de Charles, qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire et m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'histoire de Myriam, qui, tout comme Catherine de l'épisode précédent, vit en Suisse. J'ai été très émue d'écouter son témoignage, car il me prouve à quel point je m'étais trompée sur ce que représenterait la trisomie 21 dans ma vie et aussi dans la vie de mon fils aîné. Les frères et les sœurs sont forcément impactés par ce chromosome supplémentaire, mais qui a dit que cela devait être dans le sens négatif du terme? Merci infiniment à Myriam de nous ouvrir les yeux sur la richesse que cela peut apporter au sein d'une fratrie, richesse de l'ouverture d'esprit que cela apporte pour le futur et richesse des expériences que cela donne à vivre chaque jour. Et vous savez quoi? Demain, c'est l'anniversaire de cette femme extraordinaire qui a accepté de me confier une des parties les plus intimes de sa vie. Joyeux anniversaire à l'une des toutes premières à m'avoir rassurée sur ce chemin que j'ai emprunté il y a maintenant 2 ans. Et maintenant, place à l'épisode 18 du podcast. Bonne écoute! Bonjour Myriam, comment vas-tu?
Bonjour Raphaël, je vais très bien, merci.
Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation à partager un bout de ton histoire personnelle et plus spécifiquement sur l'arrivée de la trisomie 21 dans ta vie, vu que, rappelons-le, il s'agit avant tout d'un podcast centré sur l'impact que peut avoir l'arrivée d'un enfant porteur de trisomie 21 dans la vie d'une famille. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, puis nous présenter la personne extraordinaire avec laquelle tu vis?
Oui, alors je suis Myriam, j'ai bientôt 42 ans, je suis mariée à Cyril depuis 15 ans cette année et nous avons 4 merveilleux enfants. On habite en Suisse romande, au bord du lac Léman, dans une belle région entre Lausanne et Montreux. Et notre troisième enfant s'appelle Amélien et il est porteur de trisomie 21.
Alors, si tu veux bien, on va faire un petit flashback pour que tu nous racontes donc ce désir de troisième enfant et comment tu as vécu le début de cette nouvelle grossesse.
Alors, avec Cyril, on s'était toujours dit 3 enfants. C'était vraiment, c'était assez clair qu'on aurait un jour 3 enfants, enfin, si on arrive à en avoir, et on a eu la chance de pouvoir en avoir. Et Amélien, je suis en fait très vite tombée enceinte après notre deuxième. Notre deuxième, Céliane, avait 11 mois à l'époque quand je suis tombée enceinte. Et début de grossesse tout à fait normal. J'étais toute bien, on avait le projet, on était en train de construire notre maison. Enfin, c'était une belle période, quoi. Tout se passait bien, en tout cas dans ces premières semaines de grossesse.
Et à quel moment est-ce que tu as appris?
Début juin, en 2015, j'avais fait le tri-test, cette fameuse prise de sang qu'on faisait à l'époque à 12 semaines. Maintenant, on propose plus facilement le DPNI parce qu'il est remboursé par les assurances, mais à l'époque, ça ne l'était pas, en tout cas pas chez nous en Suisse. Et là, 2 jours après la prise de sang des 12 semaines, je me souviens vraiment, je pense que je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. Je vois mon téléphone portable et je vois le numéro de la gynécologue et je me dis « tiens, c'est bizarre ». Mais je ne fais pas tout de suite le lien avec la prise de sang que j'ai fait 2 jours avant. Dans ma tête, je me dis « ah, mais c'est peut-être son assistante qui veut déplacer un rendez-vous, qui m'appelle ». Et puis je réponds. Et là, j'ai la voix de la gynécologue au téléphone et tout de suite, je me dis « ah, il y a un truc qui ne joue pas ». Et là, elle me dit « écoutez, madame, ce n'est pas un téléphone agréable que je vous fais ». J'ai une mauvaise nouvelle, vous avez un risque élevé que l'enfant soit porteur de trisomie 21. C'est un moment qui, comme je te disais avant, je pense que ça restera gravé toute ma vie. Ça s'est bien passé dans le sens où elle a été super, elle était très calme au téléphone, moi je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis elle m'a gentiment dit, vous êtes au travail, maintenant on va raccrocher le téléphone et après vous irez vers vos collègues, vous allez leur dire que vous devez rentrer chez vous, vous allez appeler votre mari. Enfin, elle m'a un peu, c'était un peu, elle me listait comme une liste, comme si je devais aller faire mes courses, tout ce que je devais faire. Mais voilà, oui, vraiment. Et puis, j'étais un peu en état de choc, hein, donc c'est clair que...
Un peu voilà. Beaucoup, oui.
Ouais, ouais.
Et si tu te replonges donc dans cette première annonce de suspicion, donc parce que pour l'instant c'était oui. C'était qu'une probabilité, oui, même si c'était élevé, est-ce que y a une émotion qui ressortait ?
Il y a eu d'abord, je comprenais pas. Tu sais un peu, tu te vois au téléphone. Enfin, j'étais un peu comme si je sortais de moi-même, puis je me voyais de l'extérieur. Je dis qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a un peu ce choc là. Puis après, alors très très vite, j'étais hyper angoissée. Ça a vraiment été comme une vague qui est montée en moi. Et dans ma tête, je me disais, non, c'est pas possible. Il y a pas, je veux pas d'un enfant handicapé. C'est pas ce que j'ai prévu dans ma vie. Hein. Donc, c'était un peu, voilà, c'était un tsunami émotionnel. J'étais complètement dans une peur. J'ai tout de suite pleuré. J'étais vers mes collègues. Je me suis mise à pleurer. Enfin, voilà, c'était, je devais... conduire, j'étais dans ma voiture en larmes à un moment donné, je me souviens de devoir m'arrêter parce que j'arrivais plus à voir la route tellement que je pleurais. J'étais très très angoissée, j'ai vraiment ce sentiment de, voilà, tu sais, limite crise d'angoisse quoi, t'arrives plus à respirer, c'était très violent. Ouais.
Et est-ce que tes collègues, ils ont compris, tu leur as expliqué un petit peu ?
Ouais, à l'époque je travaillais comme éducatrice dans une unité d'accueil pour enfants parascolaire. Donc, en dehors des heures d'école, on s'occupe d'accord. d'eux. Et donc, un milieu essentiellement de femmes, avec des collègues qui, pour la plupart, étaient aussi des amis. Donc, j'ai tout de suite dit, en fait, je venais d'annoncer la grossesse, on était déjà à 3 mois, puis j'ai dit, ouais, non, ça va pas, il y a peut-être une trisomie, puis là, j'étais en larmes, puis bon, il y a eu beaucoup d'empathie, elles m'ont pris dans les bras, elles m'ont dit, bah, vas-y, rentre chez toi.
Ouais.
Et puis, pour la petite histoire... la directrice de l'époque où je travaillais, elle a un petit frère qui est porteur de trisomie 21.
Ah.
Je pense à elle parce qu'elle a joué un rôle aussi important à ce moment-là. C'est que je me souviendrai toujours, le soir, elle m'a téléphoné à la maison. Puis voilà, elle m'a dit, je veux pas induire ton choix, mais tu sais, moi, je suis heureuse d'avoir grandi avec mon frère. Enfin, ça n'a pas été un fardeau. Enfin, je me souviendrai toujours de ce téléphone parce que c'est évident que ça a impacté aussi notre choix. Hein.
Ah, ouais. J'en ai des frissons.
Ouais, ouais. Non, mais tu sais, des fois, les choses, elles se font. Tu dis, waouh, tout est d'un coup conduit comme ça. Ouais, ouais, c'est fou.
Tout s'aligne. Ouais,
ouais, exactement. Mm-hmm.
Et est-ce que, suite à ça, vous avez effectué des tests complémentaires pour obtenir une confirmation ?
Oui, donc le lendemain matin, la gynécologue voulait nous voir dans son cabinet. Et puis là, effectivement, elle nous a dit que ce test était, comme tu le disais, une probabilité. Et puis que des fois, on ne sait pas pourquoi ça révèle un risque élevé alors qu'il n'y a pas de trisomie. Et puis d'autres fois, ça révèle rien du tout alors qu'il y a une trisomie. Et puis le DPNI à cette époque, il était cher, on n'avait pas les moyens de se le payer. Donc, du coup, elle nous proposait de faire ce qu'on appelle chez nous une chorosynthèse. Mais je sais que des fois, les termes entre la Suisse et la France ne sont pas les mêmes. C'est un prélèvement du placenta et pas du liquide amniotique. Mais dans le placenta, on peut déjà voir... voilà, c'est vraiment un test génétique sur le fœtus. On avait besoin de savoir. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, je pensais clairement à l'avortement. Hein, mais j'avais quand même besoin de savoir. Pour mon mari, quoi qu'il advienne, il voulait savoir aussi. Donc, on a, oui, pris la décision d'aller. C'était le vendredi matin, puis on allait le lundi dans un cabinet sur Lausanne spécialisé pour ce genre de test. Donc, ce fameux vendredi matin où elle nous propose de faire un diagnostic, je suis dans un état, comme je l'ai dit avant, l'angoisse domine. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc, je suis une épave, fatiguée, épuisée, émotionnellement à bout. Et là, dans ma tête, je me dis, je ne peux pas garder cet enfant, ce n'est pas possible. Je pense en fait à mes deux premiers, je me dis, je ne peux pas leur faire subir ça. Voilà, dans ma tête, c'est ça en fait. Et puis là, la gynécologue nous dit que... En fait, elle nous dit une phrase assez exceptionnelle. C'est qu'elle nous dit, je veux juste vous dire quelque chose, je crois qu'on peut aussi être heureux avec un enfant comme ça. Puis elle nous dit, moi je connais des familles, j'ai suivi des femmes dans ce cabinet qui ont eu des enfants porteurs de trisomie et je sais que c'est des gens qui sont pas malheureux. Voilà. Puis elle nous dit ça comme ça. Après elle a dit, mais vous avez aussi cette liberté d'interrompre la grossesse. Je pense qu'elle se permet de nous dire ça à ce moment parce qu'elle sent quand même, même si moi je suis épuisée, très claire, mon mari il est pas dans le même avis que moi. Puis elle sent que il y a un questionnement qui va se poser aussi pour notre couple, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour la suite avec cet enfant. Et là, on rentre à la maison et voilà, il faut que je dorme, il faut que je me repose. Puis il me dit pour le moment, c'est rien qu'on se dise ce qu'on va faire parce qu'il voilà, je suis pas en état quoi, je suis vraiment, je tremble, voilà. Et bref, il y a plusieurs choses qui se passent dans cette journée, mais le soir quand je vais me coucher, je m'endors, je dors. Enfin, et le samedi matin, je me réveille et c'est clair, mais c'est limpide, je ne vais pas avorter. Je sens cet enfant déjà bouger dans mes entrailles. Je suis qu'à 3 mois, mais c'est ma 3e grossesse. J'ai déjà du ventre. Et en fait, je réalise en me réveillant, je dis, mais en fait, je ne vais pas me relever de l'interruption de grossesse. Il y a quelque chose en moi qui va se briser si je vais jusque-là. Et puis, dans ma tête, je me dis, bah, tant pis, on va peut-être souffrir. Enfin, tu vois, je suis quand même pas encore dans le truc youp, la boum, quoi. Je me dis, ça va être une vie de souffrance parce que je vais devoir donner toute ma vie pour cet enfant handicapé. Enfin, je m'imagine beaucoup de choses. Et puis, avec mon mari, on va vivre avec toute notre vie. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Bref, on connaît pas cet handicap, mais on s'imagine le pire. Et là, c'est assez clair. Donc, en fait, le lundi matin, quand on va faire cet examen, pour mon mari, c'était clair dès le départ qu'il fallait garder cet enfant. Alors Cyril, c'est un homme, il ne va pas tuer une araignée, tu vois. Il va la prendre et la remettre en liberté. Pour lui, la vie est sacrée dans toutes ses formes. Donc, mais il m'a vu tellement à terre qu'il m'a dit « Mais si tu ne veux pas garder cet enfant, je vais te suivre. Parce que c'est toi ma priorité. » Mais je pense que ça aurait été une souffrance pour lui hein, si j'avais maintenu cette idée d'interrompre la grossesse. Et voilà, alors c'est sûr que ça aide hein, contre le conjoint... Il est resté quand même calme, même s'il a pleuré suite à l'annonce, mais il était très calme. Il m'a vraiment beaucoup soutenue pendant cette période-là. Et c'est vrai que le samedi, quand je lui ai dit « Non, mais on va garder cet enfant », je pense que c'était quand même un soulagement pour lui. Et le lundi, donc, on a été faire cet examen. Et tu sais, c'est un peu bizarre à dire, mais il y avait une sorte de paix quand même qui était là. On savait que cet enfant, bah, c'était notre enfant. Après, on était dans un cabinet spécialisé hein, pour tous ces diagnostics-là. Donc, ils avaient aussi des super appareils hyper performants pour les échographies, tout ça. Et là, tout de suite, la gynécologue, une femme adorable, hyper adéquate, vraiment dans l'écoute, dans le dialogue, qui nous accueille avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Et puis, elle peut mieux mesurer la clarté nucale, elle peut mieux voir certaines choses. Puis tout de suite, elle nous dit, on va faire la chorosynthèse, mais je pense que le diagnostic va être confirmé. D'accord. Donc pour elle, c'est déjà assez clair à l'échographie. Et puis là, on fait la chorosynthèse. Alors c'est un peu, c'est vrai, hein, on fait ces examens, ce qui sont super. Il y a un risque de fausse couche hein, quand tu fais ces examens.
D'accord.
Tu dois du reste signer un papier que tu es conscient de ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'on le referait ? Je pense que oui, hein, parce que c'était notre chemin. On avait choisi de le vivre ainsi. Pour faire l'examen, donc elle doit mettre une aiguille dans ton ventre pour prendre le bout du placenta. Et puis, elle me dit, regardez. Donc, il y a l'échographie en même temps. Elle me dit, regardez, c'est incroyable. Votre bébé se met de l'autre côté. Comme s'il savait qu'il fallait vraiment qu'il se mette de l'autre côté pour pas être dérangé. Ça a été très vite, ça s'est très bien passé. J'ai quasiment pas eu de douleur. Et là, ils nous ont dit que ça pouvait prendre entre 24 heures et 48 heures, que c'était elle qui allait nous le dire par téléphone. Le lendemain matin, on a eu la confirmation que notre bébé était un garçon, parce qu'on voulait le savoir, et qu'il était porteur d'une trisomie 21 homogène libre. Donc, la plus courante des trisomies 21.
Oui, tout à fait. 95%, voilà. Je crois.
Exactement.
Avez-vous été rassurée tout de suite par le corps médical concernant donc, le choix de poursuivre cette grossesse ?
Oui, alors, bah, comme je le disais auparavant avec notre gynécologue qui avait lancé cette phrase, hein, on peut être heureux avec un enfant porteur de trisomie 21, mais pas que elle. En fait, c'était intéressant parce que quand j'ai eu le téléphone de l'autre gynécologue qui avait fait la chorosynthèse, je lui ai tout de suite dit au téléphone, je lui ai dit, vous savez, on va le garder cet enfant. Puis, en fait, elle m'a dit un truc un peu fou. Elle m'a dit, ah, vous savez, souvent, la plupart du temps, quand les parents font ce choix, on sait que ça se passe bien. Et ça m'a un petit peu, tu sais, je me suis dit « waouh !» J'ai dit « ah bon ?» Et c'était aussi intéressant d'entendre cela, puis aussi d'entendre le fait que, en fait, je pense que des fois, on s'imagine que, on s'imagine que le choix est facile d'un côté ou de l'autre, tu vois, de dire bah tu vas interrompre la grossesse, c'est plus simple, mais c'est dur aussi pour les femmes qui font ce choix-là ou les papas. Et ça, souvent, oui. Je me dis, mais on n'en parle pas. Et il y a beaucoup de souffrance aussi pour ces personnes qui ont fait le choix d'interrompre la grossesse. Et moi, je me souviens que de cette doctoresse qui me disait, bah, tout d'un coup, elle me dit, oui, on sait que quand on fait ce choix-là, c'est un peu plus facile. Parce que, vous savez, on propose quand même un soutien psychologique pour les couples qui choisissent d'interrompre la grossesse. Et là, d'un coup, je me disais, ah ouais, c'est pas si banal que ça, ces interruptions médicales. Et voilà, tu vois, il y a quelque chose des fois où je me dis, on n'en parle pas trop. Puis en même temps, ben, c'est tout d'un coup, quand tu es là-dedans, tu dis, ah, mais en fait... c'est pas si facile que ça.
C'est pas anodin parce qu'en fait, il y a quand même une grosse différence entre interrompre une grossesse parce que c'était pas la bonne personne, parce que c'était pas le bon moment, et interrompre une grossesse d'un enfant désiré, quoi.
Oui, exactement. Certainement. Je pense qu'il y a quelque chose de. Enfin, après, je ne l'ai pas vécu, donc je ne veux pas en parler, mais c'est vrai que là, j'étais surprise de cette phrase aussi de cette doctoresse. Mais là, c'est vrai qu'on a été entourée de deux femmes exceptionnelles, hein, vraiment. Parce que moi, j'ai plein de copines qui ont eu des enfants, qui ont aussi eu qui avait aussi une suspicion de trisomie 21, et son gynécologue, donc ici en Suisse, hein, son gynécologue, lui a carrément dit, il faudra prévoir une date pour l'interruption de grossesse. Donc, ça existe aussi. Et ça, voilà, c'est choquant qu'un médecin ne laisse même pas quelque part le choix, mais ça existe. On entend aussi des médecins qui pour certains, c'est une aberration de garder un enfant porteur d'handicap, quoi, nos jours. Voilà. Donc, nous, on a plutôt été gâtés de ce point de vue-là.
Et donc, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais avec ton mari, donc, est-ce que vous avez été tout de suite en phase concernant ce choix d'accueillir Amélien avec sa trisomie 21?
Ouais, c'est sûr que je pense que c'est... Enfin, j'ai l'impression que dès le moment où j'ai dit non, mais on va garder cet enfant, lui, il y a quand même eu un soulagement pour lui de dire ouais, ouf. Il y avait aussi cette phrase qui résonnait dans ma tête où la gynécologue, quand on l'avait vue, nous avait dit, mais... peu importe le choix que vous faites, hein, c'est un choix avec lequel vous allez vivre toute votre vie. Tu vois, c'est aussi intéressant de se dire ça. Il y a le avant Amélien, puis il y a le après Amélien, aussi pour notre couple. Et clairement, ça a uni. On était déjà bien unis en tant que couple, mais là, c'est sûr que ça a creusé quelque chose de encore plus profond dans l'amour et le respect mutuel qu'on a l'un pour l'autre. On a beaucoup pleuré, hein, faut pas croire, parce que souvent on s'imagine, on fait le choix que c'est facile, mais non.
Oui, non, c'est pas forcément facile.
Facile, non. Ouais. Mais on était bien, disons là, on était en paix dans notre couple, et ça, je pense, ça a été cadeau, quoi, vraiment, de pas être dans une tension. C'était vraiment, il y avait une belle harmonie.
Et est-ce que votre famille et vos amis ont été un soutien durant cette épreuve?
Oui. Vraiment, on a beaucoup de chance, que ce soit du côté de mon mari ou du mien. On a des familles qui ont été présentes, qui nous ont soutenues. Il n'y a eu aucun jugement. Moi, j'avais ma meilleure amie enceinte. c'était en même temps pas tellement... c'était pas sur le moment pas facile. Hein, je la voyais s'épanouir dans sa grossesse. Puis moi, je savais que je portais un enfant qui n'était pas comme à la base je le désirais. Mais elle était présente, elle était là. On a été gâtés par les bras et les mains qui se sont tendues autour de nous pendant cette grossesse. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est une chance parce que je sais que d'autres couples, d'autres familles ne vivent pas ça. Et il y a même des fois du rejet. Et je me dis, mais non, c'est affreux. Et là, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cela. Ouais.
Et est-ce que vous en aviez parlé avec vos deux premiers enfants? Avec vos aînés, et si oui, de quelle manière? Parce que c'est vrai qu'ils étaient très petits.
Ouais, alors, bon, c'est une question très intéressante. quand je suis rentrée le fameux jour du coup de téléphone, j'habitais à l'époque un appartement dans la même maison que mes beaux-parents, et ma belle-maman était là avec mes deux premiers. Donc, mon fils aîné avait 4 ans et demi à l'époque, et ma fille, ma deuxième, elle avait 15 mois environ, ouais, 14-15 mois.
Oui, en effet, c'est pas grand-chose.
Non, c'est pas grand-chose, mais mon fils aîné était présent, il me voyait pleurer, tout de suite, il me dit « Mais pourquoi tu pleures, maman ?» Et moi, je lui dis, du tac au tac, je lui dis « Il y a un problème avec le bébé, tu sais, on va peut-être pas garder ce bébé. » Ouais, c'est affreux, hein. C'est affreux. On est revenu sur ça, en fait, des années après. Parce que c'est ressorti au moment de la quatrième grossesse. Quand on lui a annoncé qu'il allait être à nouveau un grand frère,
Et oui.
La première question qu'il nous a dit, est-ce que celui-ci, vous êtes sûr de le garder ? Et là, j'ai compris qu'en fait, lui, il avait vécu avec cette angoisse de se dire, il y a peut-être un risque que cet enfant ne vive pas. Et on a vraiment pu lui demander pardon, en fait. Moi, je lui ai demandé pardon, hein, pour ses paroles, parce que, voilà, le pouvoir des mots. Alors, bien sûr, je me suis aussi pardonnée à moi-même, parce qu'après, on s'auto-condamne de ces paroles.
Oui, et puis bon,
dit.
On est dans un état de choc.
Mais c'est ça. Il s'est rappelé, c'était en lui, ses paroles étaient en lui. Et je pense que ce moment, il s'en rappelle. Enfin, il a 12 ans et demi maintenant. Il se rappelle, hein, de cette période où je pleurais tout le temps. Enfin, voilà, c'est très clair pour lui. Je pense que là, ce jour-là, ça a eu un mauvais impact. Mais on a pu revenir sur ça. Et puis après, ben, on a tout de suite dit qu'il allait être différent. Différent aussi avec le visage, différent dans sa façon de grandir, que tout prendrait un petit peu plus de temps. On a mis des mots très simples. Et puis, on a parlé en fait de... qu'on était tous différents. C'était surtout ça qu'on a dit à nos enfants. Alors bon, ma fille, elle était bébé, quoi. Mais
oui.
Avec Héloïse, on partageait beaucoup autour de la différence, ouais. Et on parlait aussi, lui aussi, il a ses différences à lui. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Mais très rapidement, on a quand même mis des mots pour aussi qu'il comprenne le jour où il serait là, qu'il n'aurait peut-être pas tout à fait le même visage que sa sœur avait ou que d'autres bébés ont. Enfin, tu vois, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, alors on essayait de mettre un peu, de préparer le terrain, comme on dit.
Et comment s'est passée justement la suite de la grossesse jusqu'à la naissance d'Amélien ?
Avec mon mari, on dit c'est la PM, cette période-là, donc c'est la période de merde. Non, c'est pas une belle période. Cette grossesse, elle a été dure, quoi. Beaucoup d'examens.
Oui.
Tout de suite, on doit contrôler le cœur. Nous, on se retrouvait au CHUV. C'est un grand centre hospitalier à Lausanne, un immense hôpital. On était tout d'un coup propulsé. On devait aller jusque là-bas pour faire nos examens. Enfin, alors là, des fois, tu te retrouves face à des médecins. T'as un numéro de dossier, quoi. Tu vois, pff, là là. Certains vraiment, mais c'est ils parlent entre eux, ils te parlent même pas. Enfin voilà. Après, dans le lot, il y en avait un ou deux qui étaient bien, hein, mais des fois, c'était pas évident. Puis nous, on était un peu, on apprenait en fait en allant là-bas. Ah, en fait, il y a un risque de cardiopathie. Ah, en fait, il y a un risque de ça. Il y a un risque.
Oui, du coup, c'est très stressant.
C'est ouais. Hyper anxiogène. Donc en fait, c'est un peu comme si on te lit les effets secondaires d'un médicament. Puis on te dit voilà tous les risques. Et la liste est longue. Et puis toi, donc, tu vois, tu vas t'imaginer plein de trucs, quoi. Il peut être malentendant, il peut avoir des problèmes de vue. Les problèmes de cœur, c'est quand même 50%, hein, les cardiopathies. Enfin,
ouais, 40-50%.
Ouais, entre 40 et 50%. Donc, tu vois, t'es complètement stressée. Enfin, voilà. Donc, c'était pas une grossesse facile. On m'a proposé de voir une thérapeute que j'ai pu voir à deux reprises. Mais après, je veux aussi te dire que plus les mois passaient, mieux ça allait, parce que certainement que je faisais aussi mon processus de deuil et que, en fait, plus... donc, Amélien est du mois de décembre et plus le terme s'approchait et plus j'étais dans la paix, en fait. Et ça allait de mieux en mieux. On nous a proposé d'aller visiter, de rencontrer une famille avec un enfant porteur de trisomie. Et pour nous, c'était pas possible à ce moment-là d'être en contact avec des familles avec un enfant porteur de trisomie.
Tu voulais d'abord rencontrer ton bébé.
Ouais. Et puis moi, tout de suite, j'ai dit, mais écoutez, on ne m'a pas proposé d'aller visiter une famille quand j'étais enceinte de mon premier enfant pour me dire voilà ce que c'est. Enfin, tu vois, c'était très clair. J'ai dit non, je veux d'abord, laissez-moi le rencontrer. Et puis après, on verra. Par contre, on m'a beaucoup parlé à l'époque de tomber du nid. Ça m'a fait du bien vraiment de lire, de regarder des reportages sur cette famille qui avait accueilli leur petite Marie. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça, tu vois, qui m'ont réconfortée. On a été voir un généticien. Alors, lui, il nous a bien rassurés parce que quand on lui a demandé qu'est-ce qui allait changer dans notre vie, eh ben, c'était une femme, une généticienne. Elle nous a regardé très sérieusement. Elle a dit, vous aurez beaucoup plus de lessive. Moi, je ne comprenais pas. Et puis, elle me dit, bah oui, trois enfants. Puis après, elle me dit, mais non. Elle a dit, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Elle a dit, nous, le retour qu'on a des familles qui ont des enfants porteurs de cet handicap, c'est des fois le regard de la société qui est un peu plus lourd à porter. Mais souvent, dans les familles, ça se passe bien. Et puis après, elle nous dit comme ça, mais bon, vous savez, vous êtes tombée un peu sur la Rolls-Royce. Du... Enfin, tu vois, c'est un peu débile de dire ça comme ça, mais genre, elle a dédramatisé le truc, quoi. Donc, nous, elle nous a fait du bien, quoi.
Cette... Si vous devez choisir un handicap, ben, il faut peu... choisir celui-là, quoi.
C'est affreux de dire ça, mais c'est un peu ce qu'elle nous a dit, tu vois. Chaque histoire est différente, aussi avec la trisomie 21. On a un rapport au handicap qui nous est personnel. Il n'y a pas de jugement à avoir. Et il y a des handicaps, il y a des pathologies associées à la trisomie 21, donc des fois c'est aussi différent. Et c'est vrai que je le répète souvent ça, parce qu'il ne faut pas faire d'un cas une généralité. Moi, ce que je partage aujourd'hui, c'est notre vécu. Et puis pour d'autres, le vécu il est différent. Il y a des femmes qui se retrouvent seules aussi avec leur enfant. Enfin, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc moi je... J'ai pas non plus envie de mettre un poids sur les épaules de femmes ou d'hommes pour qui c'est peut-être plus difficile. Enfin, c'est tout pas le but. Puis c'est vraiment de se dire, mais en fait, on est tous différents. Voilà. Et moi, c'est vrai que les circonstances pour l'accueil d'Amélien étaient favorables. La famille est présente, le mari est présent. Bref, on était bien entourés. Donc, c'est vrai que ça a été certainement aussi dans le processus de l'acceptation, ça a beaucoup aidé.
Et du coup, quelles ont été les choses qui t'ont aidé à surmonter ce choc et à faire ce deuil de l'enfant ordinaire, finalement, à part ta famille, tes amis?
Bon, mais alors, clairement, là, je parle de quelque chose qui est très personnel et intime. Je suis croyante, donc c'est vrai que la foi, la prière, avec Cyril, on partage la même foi, donc ça a accompagné cette grossesse. Je crois que je me suis jamais sentie aussi proche du Dieu auquel je crois à ce moment-là de ma vie. Et j'avais cette petite voix au fond de moi, vraiment, cette petite voix qui revenait, qui me disait, tu sais, au fond de moi, je sentais, ok, là, tu pleures, j'ai pleuré, tu sais, Raphaël, presque toutes les nuits pendant plusieurs mois. Ouais. Ouais, en tout cas, je pense pendant 2-3 mois, je me réveillais en larmes pendant la nuit, avec des angoisses, des peurs.
Ouais, c'est long, hein.
C'est long. Donc, tu vois, j'étais bien contente d'avoir un moyen d'évacuer tout ça. Pour moi, ça a fonctionné. Et j'avais cette petite voix au fond de moi qui me disait, ok, t'es en train d'en, c'est dur là, c'est difficile, mais je pense qu'un jour, tu verras les choses différemment. Et c'est vraiment ça. Et en même temps, il faut passer par ces larmes, il faut passer par cette souffrance. On grandit, enfin l'être humain grandit ainsi, et je me dis, mais waouh, tout ce que j'ai appris parce que j'ai traversé cela, toute l'empathie et la compassion que j'ai dans mon cœur pour les femmes et les hommes qui traversent cela. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Alors je ne veux pas faire l'apologie de la souffrance, mais je pense qu'elle fait partie de nos vies, et que si on accepte cette souffrance, si on accepte de la laisser aussi passer, de nous habiter pendant un certain temps, voilà, on sort différent, grandi, plus fort d'une certaine façon. Mais cette fragilité-là, moi, elle m'a fait... voilà, j'ai touché le fond, mais pour mieux remonter, quoi, clairement. Et c'est vrai que, voilà, ça, c'était un facteur, je pense, vraiment important pour surmonter ce choc. Et puis vraiment, ouais, je pense la famille, quoi, les gens proches. Ils étaient là, enfin voilà, on n'était pas seuls. J'étais vraiment entourée par des hommes et des femmes remplis de bienveillance. Tout ça a contribué à réapprendre à respirer. J'aime bien ce terme-là parce que...
Ah voilà. Ouais, c'est joli.
Ouais. Réapprendre à respirer, à se calmer.
C'est un petit peu comme si on était en apnée et puis...
Exactement. Ouais. Moi, j'ai cette image de l'apnée, tu sais, quand t'es dans l'angoisse. C'était vraiment ça.
Et du coup, après plusieurs mois à ne pas exactement savoir donc à quoi il allait ressembler, en quoi votre vie allait changer, avec un bébé porteur de trisomie 21, donc Amélien finit par naître donc en décembre, je crois. Est-ce que tu nous racontes ?
Ouais, alors il était prévu pour le 21 décembre. Il avait un petit peu d'avance, ce qui n'était pas plus mal. je me souviendrai toujours, c'était le samedi 5 décembre, j'ai commencé à avoir des contractions anarchiques un peu toute la journée. Mais tu sais, je savais que c'était pas les contractions, ça se préparait, voilà. En fin de journée, on avait fait des petites valises pour nos enfants, ils allaient dormir chez les grands-parents. Et là, on est arrivé à l'hôpital vers 21h. Tout se passait bien. Et puis, moi, j'étais vraiment dans la paix. Non, mais un truc de dingue. En plus, ce soir-là, je crois que je suis la seule femme qui était à la maternité en train d'accoucher, quoi. Donc, ça veut dire que...
Ça, c'est calme.
quand tu sens que l'équipe est pas stressée, tu vois. Et puis là, Amélia est née au petit matin, enfin juste après minuit, non, vers 1h du matin. C'était le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est la date d'anniversaire de mon grand-papa. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Et puis, quelle joie de le voir enfin, de l'avoir dans les bras. Et là, avec mon mari, on dit toujours, les deux, on a le même sentiment. Tout est redevenu normal. C'était incroyable.
Quand il est sorti, quand tu as pu le voir.
Et les angoisses, tout ça, c'était fini, quoi. Tout est redevenu normal. Et
ouais, c'était juste un bébé, en fait.
C'était notre bébé. Alors, avec ses petits yeux en amande. Mais voilà, c'était notre petit Amélien. Et puis, il y avait beaucoup de calme dans cette salle d'accouchement. Un peu comme un moment solennel, tu sais. Il y avait deux sages-femmes présentes, le pédiatre qui venait pour les contrôles dès la naissance. Ils étaient un peu tous, tu vois, à marcher sur des œufs. Voilà, on va y aller délicatement avec cette famille, tout ça. On m'avait même mis dans une chambre seule. Enfin, ils étaient tous au courant parce que j'avais fait la visite avant l'accouchement. Ils savaient qu'on était au courant du handicap, tout ça. Mais ils ont pris vraiment les pincettes avec nous, alors que c'était très drôle. Après tout le long à la maternité, j'avais des sages-femmes qui venaient causer dans la chambre. Et puis, qui vraiment, elles étaient, ah, mais c'est génial de vous voir remplie de joie. Moi, j'étais que dans la joie. Tu sais, j'ai pleuré pendant 6 mois. Et là, c'était fini. Je faisais que de rire. Et même le pédiatre venait, disait, vous savez, l'allaitement, ça risque d'être compliqué. Moi, je rigolais, je disais, oh, ça va aller. Tu sais, c'était vraiment, je rassurais le milieu médical autour de moi. Et tous les jours, il y avait même une psychologue qui venait. Est-ce que vous avez besoin de parler? Je disais, mais écoutez, je sais pas, non, mais en fait, ça va, j'ai pas besoin de parler. Du coup, je me demandais si c'était normal, tu sais, d'être comme ça dans l'euphorie. Après, je me suis dit, ouais, c'est les hormones, mais en même temps, j'avais pas souvenir d'être autant euphorique pour les autres. C'est comme si j'avais fait péter le bouchon de champagne, quoi. Et puis là, c'était bon, ça pouvait, je respirais à nouveau.
Et est-ce que tu espérais trouver des ressemblances avec le grand frère et la grande sœur?
Alors ça, c'était la question qui a habité toute ma grossesse. Et je l'ai même posée à la gynécologue. Est-ce qu'il va ressembler à son frère, à sa sœur? Ça avait fait rire la gynécologue. Elle disait, mais oui, bien sûr. Elle a dit, elle me disait, mais il aura vos traits. Enfin, c'est votre enfant. Après, c'est sûr que à la naissance, moi, j'ai tout de suite remarqué les yeux en amande. Amélien avait une forte hypotonie. Hein, donc, il a marché à 3 ans, 3 ans et demi. D'accord. Vraiment marché à 3 ans et demi, donc tu vois, donc il était très très mou comme ça dans mes bras, donc c'est vrai que j'étais plus un peu concentrée sur ça. Et puis après, plus il a grandi, plus j'ai vu les traits de ressemblance, plus j'ai vu dans certaines photos, tu sais, tout d'un coup je peux voir mon autre garçon, ou ah là on dirait sa sœur un peu, ouais. Alors après, il y a toujours un peu cette question au fond de moi, je me dis, ah tiens, enfin, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler s'il n'a pas la trisomie 21? Enfin, tu vois, c'est un peu bête, hein, mais... Non, mais des fois, je me pose un peu cette question.
Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas avec
non,
de la trisomie,
Puis même, maintenant, je ne pourrais pas le voir autrement en même temps. Hein. C'est Voilà. Et puis, en plus, Amélien, je ne l'ai pas dit, mais il a une maladie auto-immune qui s'appelle l'alopécie. Donc, c'est vrai qu'il a perdu tous ses cheveux.
D'accord.
Alors, c'est une maladie qui n'est pas forcément associée à la trisomie 21. Après, d'accord, on dit que le terrain peut être favorable à ce genre de maladie, mais disons là, en l'occurrence, il est suivi par des spécialistes qui suivent d'autres enfants, comme ça, et c'est le seul qui est porteur du trisomie 21. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va en fait plus remarquer ça que sa trisomie, tu vois. Quand je suis dans un lieu où les gens ne le connaissent pas, tout de suite, on regarde, on va lui dire pourquoi. Enfin, on pense souvent qu'il a eu un cancer, mais c'est vrai que voilà, il est encore plus atypique.
Mais du coup, il en a jamais eu ou c'est récent ?
Si. Alors, il est né avec des cheveux. Il en a eu jusqu'à l'âge de 3 ans. Puis après, il les perdait par période. Des fois, il avait un peu comme des trous sur la tête où il n'y avait pas de cheveux. Puis après, ça revenait. Et puis là, depuis une année, il a tout perdu. Mais là, c'est un petit peu en train de revenir. On essaye certains traitements avec les dermatologues. Les lieux qu'il fréquente d'habitude, toutes les personnes sont habituées à le voir comme ça, donc il n'y a pas trop de soucis. En tout cas, lui, il le vit bien. Il ne nous montre pas qu'il a une tristesse par rapport à ça. C'est des fois plus les frères et sœurs hein, qui sont travaillés par cela.
Et comment s'est passé ensuite le retour à la maison et le début de cette nouvelle vie à 5, alors?
Mais très bien. Et Amélia était vraiment un bébé super facile. Ouais, vraiment. Tu sais, à la limite, il fallait un peu le réveiller pour le nourrir. Voilà. Il y a juste à 6 semaines, il a fait une bronchiolite que tu connais. Bronchiolite. Et là, on a été à l'hôpital. C'était un peu une période difficile. Voilà. À part ça, ça s'est très bien passé à la maison. Chacun a pris ses marques. On venait d'emménager dans notre maison. C'était aussi, voilà, il y avait beaucoup de nouveautés. Donc, c'est l'occasion de tout recommencer, tu vois. T'es dans un nouveau lieu, il y a un nouveau bébé, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'ai une belle... j'ai vraiment de belles images de cette période-là, de ce début de vie à 5, avec les enfants, ça se passe bien. C'est chouette, quoi, vraiment.
T'avais pas une appréhension particulière sur la relation entre Amélien et son frère et sa sœur ?
Non, j'avais pas de... Ce qui me questionnait, c'était comment on allait vivre cela à l'extérieur. C'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais c'était de me dire comment on va vivre sa trisomie dans la cour de l'école. Comment on va vivre sa trisomie, je sais pas, en allant faire des courses. Enfin, tu vois, des choses comme ça. C'est plus ça qui me questionnait aussi par rapport à mes autres enfants.
Le regard social.
Voilà, exactement.
Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais c'est le seul truc auquel je travaille encore. Hein.
Là, je vois que j'ai plus de chemin à faire par rapport à l'alopécie. Pour moi, c'est un... Oh là là, j'ai encore du chemin pour l'acceptation, de me dire oui. C'est OK que les gens le regardent, le fixent, il n'a pas de cheveux, enfin voilà. Mais je pense que même si on essaie de se détacher de ce regard social, il est là, quoi. Il est quand même là. Il y a des jours, c'est plus facile que d'autres, on va dire ça comme ça. Ouais.
Tout à fait. Est-ce que votre vie, donc, elle a changé ? Est-ce qu'il y a des choses différentes ?
Oui, il y a plus de lessive.
Et avec le quatrième, encore plus.
Oh là là ! Non, mais concrètement, en fait, l'arrivée d'Amélien, la vie jour après jour avec lui, j'ai réalisé qu'en fait, c'était facile. Mon vécu, bien en sûr. Fait, je vais pouvoir retravailler, mais en fait, je vais pouvoir avoir une vie sociale. Il n'y a pas grand-chose qui est différent. Il y a des rendez-vous, certes, c'est sûr. Hein. L'agenda est un petit peu plus chargé. Alors, voilà, ça, c'est la grosse différence. C'est que le temps passe vraiment très, très... Enfin, le temps passe plus vite. Évidemment, j'ai 4 enfants, mais d'autant plus avec Amélien, avec quand même parfois un agenda de ministre. Mais voilà, on s'organise pour que la famille, elle ne subisse pas trop cet agenda-là. Enfin, le reste de la famille. Mais autrement, concrètement, moi, je trouve que je suis différente, mais dans le bon sens, tu vois. J'ai appris à avoir plus de patience pour chacun de mes enfants, être moins dans l'exigence. En fait, je réalisais pas que j'étais exigeante, quoi. Et là, tout d'un coup, c'est des bonnes claques, quoi. Tu dis, waouh, en fait, t'en demandes un petit peu trop, là. Calme-toi, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et ça a fait du bien, notamment, je pense à notre fils aîné. Notre fils aîné, c'est un petit peu l'inverse d'Amélien. Il a plutôt un QI un peu plus élevé que la norme. Et puis, du coup, ça amène aussi beaucoup de défis. Moi, je trouve qu'au niveau éducatif, aujourd'hui, c'est des fois plus défiant avec lui. Hein. Je le dis avec beaucoup d'amour parce que je l'aime tout plein. Mais,
évidemment.
Mais il y a des handicaps qui sont visibles et d'autres invisibles. Et puis, parfois, on est défiant en tant que parent. Nous, dans notre parentalité, c'est des fois plus chaud avec notre aîné. Là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'on était défiés en tant que parent depuis que notre aîné avait 3 ans, depuis l'âge de 3 ans. Donc, on vivait déjà pas mal de défis au niveau éducatif. Puis c'est vrai qu'Amélien, je trouve que ça nous a vraiment... On a relativisé, on s'est dit, non, mais en fait, c'est facile. Enfin, vraiment, quoi. Je me suis dit, mais je me suis fait du souci. J'étais angoissée pour rien du tout. Alors, voilà, il n'a que 7 ans. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais aujourd'hui, Amélien, même si parfois il est têtu, même si, des fois, quand il a décidé de quelque chose, c'est compliqué de lui faire passer à autre chose. Mais comme beaucoup d'enfants. Et puis, tu sais, Amélien, en fait, si tu as si tu arrives à parler son langage, la bonne stratégie, c'est hyper facile de lui faire... Voilà, il peut se mettre à pleurer pour un truc et puis tu peux vite le faire rire, quoi. C'est très, très facile de le faire sortir d'une crise. Si je compare avec notre dernière qui a 3 ans et demi, qui commence à faire vraiment des grosses, grosses crises... Elle, ça prend plus de temps, tu vois. Amélien, il a cette capacité un petit peu d'être comme une crêpe. D'un coup, je rigole. Enfin, voilà, des fois, il veut pas aller à l'école. Alors, mon mari, il invente une histoire ou il raconte une histoire qu'il connaît. Tout est dans le jeu, dans le théâtre avec lui. C'est très théâtral. Et si t'es là-dedans, mais tu lui fais faire n'importe quoi. Et c'est vrai que les thérapeutes qui suivent Amélien, qui ont aussi certaines habitudes d'avoir d'autres enfants porteurs de trisomie, elles nous disaient, mais... En fait, on arrive assez vite à lui faire faire ce qu'il n'a pas envie de faire, quoi, tu vois. Donc, il n'est pas si compliqué que ça. Non, non, je pense qu'il est encore assez cool, quoi. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a cette facilité parfois de... Amélia, il est fan de Charlie Chaplin, hein, donc de Charlot. Et des fois, on est au supermarché, puis tout d'un coup, il va voir quelque chose qui lui fait penser à un film de Charlot, et il va se mettre dans le personnage. Donc, je fais mes courses avec un garçon qui imite Charlot. Et là, des fois, c'est difficile de le faire sortir du truc. Alors, j'explique un peu aux gens. Tu vois, il va vers les gens. Il fait les mêmes trucs qu'il voit que Charlot fait. Enfin, voilà. Des fois, il y a des situations assez incongrues. Mais les gens sont bienveillants et la plupart du temps, ils rigolent. Donc, ça va. Ouais. Mais autrement, voilà. Il n'y a pas. Non, franchement, j'imaginais des choses horribles et ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas.
Et donc, il a 7 ans. Il va dans une école ordinaire en Suisse.
Oui, alors il va donc à l'école de notre village. Chez nous, on appelle ça la 3P. Je crois que ça correspond à ce qu'on appelle chez vous le CP.
Un CP, c'est 6 ou 7 ans, ouais.
C'est un peu ça, ouais. La Suisse, c'est un petit pays, mais assez compliqué, hein. On a différents cantons, parce que l'école, si tu veux, elle est gérée au niveau réglementaire par les cantons. Donc, tu peux habiter à Lausanne, et puis tu as une règle par rapport à l'école inclusive. Et puis, tu peux être à Genève, puis c'est encore une autre règle. Voilà. Alors, moi, je vais te parler du canton de Vaud, là où on habite. Donc, ici, Amélien, à l'école, il a une aide qui est là quasiment tout le temps. Quand elle n'est pas là, il a une enseignante spécialisée qui vient pour travailler avec lui des choses spécifiques. Et puis, autrement, le reste du temps, il est en classe avec les autres. Nous, c'est un peu particulier, on a fait une demande à l'école de retirer Amélia à certains moments de l'école parce que c'est à ces moments-là qu'il a ses thérapies. Voilà, pour nous, c'est important que les thérapies soient pendant son temps d'école pour éviter aussi, d'une part, que les autres enfants subissent, dont la fratrie subisse tous les rendez-vous d'Amélia.
D'accord, oui.
Et puis pour nous, trois quarts d'heure de séance d'orthophonie, ça vaut deux périodes d'école. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est tout aussi... Enfin, c'est presque...
Important.
Ouais, vraiment. Puis, il travaille... Il est en individuel, donc il travaille vraiment bien. On a en plus une orthophoniste en or. Ouais, je n'ai jamais vu ça. Enfin, elle est juste incroyable comme elle le fait travailler. On va continuer, en fait, avec ce système-là, de le retirer deux matinées dans la semaine.
Plus fluide dans l'organisation.
Exactement.
Quoi.
Ouais. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et lui aussi, il peut un peu souffler parce qu'il se fatigue quand même un peu plus vite, hein, Amélia.
À l'école.
Donc, oui, tout lui demande quand même plus... C'est plus de travail pour lui de lire une phrase. C'est plus de travail de rester concentré, parler aussi, bien prononcer. Il y a une fatigue qui est plus vite là, on va dire, par rapport à un enfant ordinaire. En tout cas, pour notre fils, après, je ne veux pas faire des généralités.
Bien sûr. Ouais. Et du coup, moi, j'ai juste retenu qu'il a 7 ans et il sait lire une phrase.
Ouais.
Et ah, ça, ouais. C'est tellement encourageant, quoi.
Alors, ben, ça, c'est comme les premiers pas, tu sais. Quand il commence à lire un mot, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, en fait, c'est ça. Maintenant, je pleure, mais de joie avec Amélia. C'est vraiment des larmes d'émotion très, très positives.
Est-ce que tu as le sentiment qu'il est en décalage avec les enfants de son âge ?
C'est une bonne question. Si tu veux, plus il grandit, plus je vois le retard, on peut dire ça comme ça. Disons qu'il prend plus de temps. Après, je vois dans sa classe que certains copains, au niveau émotionnel, sont déjà un peu plus grands, tu vois, dont la compréhension de certaines choses ou tout ça. Mais après, il reste quand même, il a un ou deux copains là, avec qui il aime bien jouer, donc... Voilà, c'est sûr que si tu le compares... Enfin, l'autre jour, j'ai vu mon filleul qui a le même âge qu'Amélien. Ah bah oui, hein, y a une grosse différence quand on les voit l'un côté de l'autre. Après, Amélien, il a aussi une différence physique, si tu veux. Il a une démarche très chaloupée, comme ça. Il va plus facilement tomber qu'un autre enfant. Enfin, voilà. Donc, c'est sûr que moi, je vois ce décalage. Mais en même temps, c'est pas... En fait, je trouve pas que c'est négatif parce que s'il y a quelque chose de... d'assez beau, je trouve, de voir aussi pour les autres, tu vois. Ils accueillent Amélien d'une façon... ils viennent vite l'aider s'il y a un petit souci. C'est très chou, quoi.
Ils sont plus attentifs.
Plus attentifs, ouais. Et puis, il y a les grands de la classe de mon fils, parce que l'école est juste en face. Il y en a un de sa classe, il est drôle. Chaque fois qu'il voit Amélien, il vient vers Amélien, il dit « Salut Amélien !» Donc, tout le monde connaît Amélien, tu vois. C'est vraiment la coqueluche.
C'est la star.
Moi, des fois, je lui dis « Tu les connais ?» Puis, il me dit « Non !» Ils viennent dans la cour, tu sais, ils font des saluts, des checks, c'est très chou, quoi. J'ai vraiment quasiment pas assisté à de la moquerie, alors peut-être ça peut arriver, mais tu sais, à cet âge-là, il faut juste expliquer aux enfants, quoi. Enfin, je pense vraiment que ça passe par de l'éducation. C'est... Donc, je vois le décalage. Pour en même temps, ce décalage, il amène aussi du positif, quoi. Je trouve qu'on est en train de construire la société de demain, et ces enfants qui vivent à l'école avec un enfant qui est porteur d'un handicap, c'est peut-être un... Peut-être dans l'équipe, il y a son futur employeur. Tu vois ce que je veux dire ? Et oui. Je me dis, mais c'est génial. C'est juste... C'est du win-win, comme on
c'est
dit.
Une c'est une richesse pour tout le monde.
Ouais, mais pour tout le monde. Et ça, on a vraiment un soutien de la part de l'école, de la direction de l'école. Pour eux, Amélien, aujourd'hui, en tout cas, a vraiment sa place ici. Il n'y a pas de raison qu'il aille, à l'heure actuelle, dans une école spécialisée. Nous, c'est une belle expérience qu'on vit. Et ça, c'est un truc, jamais j'aurais pensé que mon fils irait. Je veux dire, il se retrouve dans... Moi, j'ai grandi dans ce village, donc c'est le village où j'ai grandi, où on habite maintenant. Et il se retrouve... dans la même école où j'allais, dans la même cour où j'allais. Le premier jour d'école a été rempli d'émotions pour moi. Tu vois, là, je me revoyais pendant la grossesse, je me dis, purée, mais si j'avais été vue là, aujourd'hui, j'aurais beaucoup moins pleuré. Enfin, voilà, tu vois.
Il vaut mieux que ce soit ça que l'inverse.
Exactement. Exactement.
C'est sûr. Donc là, tu nous parles du positif. Est-ce que tu ressens certaines difficultés liées à la trisomie 21 d'Amélien et qui pèsent sur ton quotidien ?
Je reviens sur ce que je te disais avant. Je pense vraiment que c'est plus des fois le regard de la société, le regard social, comme ça. C'est ça, des fois, qui peut être lourd pour moi. Des fois, ce côté, on doit aussi un petit peu se battre au niveau administratif, certains remboursements. Voilà, ça, c'est un peu lourd, j'avoue. Tu sais, je me sens chanceuse de l'avoir, cet enfant, et cette trisomie 21, elle... Moi, je l'aime. C'est voilà, je sais pas si je vais choquer des gens en disant ça, mais vraiment, j'aime sa trisomie aussi.
Il ne serait pas Amélien sans cette trisomie.
Non, exactement. Et puis, il y a quand même ce petit truc en plus. Il fait des trucs que mes autres enfants ne faisaient pas. Il a une intelligence émotionnelle, mais qui est surdéveloppée, quoi. Il va ressentir des choses que nous, on ne ressent pas. Moi, j'ai vécu des choses complètement folles avec lui, où d'un coup, il va faire un câlin à quelqu'un. Et tu dis, pourquoi il va lui faire un câlin ? Puis après, tu apprends que cette personne, elle vient de perdre quelqu'un, qu'elle est dans une période de deuil. Enfin, tu vois, tu te dis, mais il sent des choses... que nous on sent pas ou on sent plus, on va dire ça comme ça. Non, moi je trouve que il y a pas que du négatif avec ce chromosome en plus. Bien sûr, ça prend plus de temps, pour plein de choses, mais en même temps ça a ouvert une dimension. Il a un amour pour les gens, Amélien. Après, des fois ça dérange, mais c'est vrai qu'il a un côté, il est très tactile, il veut être dans la relation, il va voilà. Bref. Moi, j'aime mon fils, alors évidemment, mais c'est vrai que, tu sais, maintenant, chaque fois que je vois des personnes porteuses de trisomie 21, je vais vers elles, je les salue, je les prends dans les bras, enfin, c'est génial, quoi. Non. On a besoin, ça, du bien à notre société, je trouve, ces personnes-là, vraiment.
Est-ce que tu as l'impression de t'impliquer plus pour lui, pour qu'il évolue par rapport à tes autres enfants ?
Ouais, clairement. Ouais, il faut être honnête. Oui. C'est peut-être le point un peu, on va dire, des fois, je me dis, faut pas que j'oublie les autres.
Oui.
Je crois que le fait d'avoir eu encore un enfant après, j'ai aussi appris un peu à lâcher. Mais des fois, mon fils aîné me le dit, il me rappelle, il me remet gentiment à l'ordre. Ouais, maman, tu sais, il peut aussi débarrasser. Ah, mais maman, laisse-le faire ça. Enfin, tu vois, oui, t'as raison. C'est très bien. Après, j'ai réalisé dernièrement, parce que c'est vrai qu'on parlait avec mon mari de la fratrie de nos 4 enfants. Puis on voit que notre fils aîné prend beaucoup de place à la maison, aussi au niveau du temps de parole à table, des choses comme ça. Que notre dernière aussi, qui ressemble beaucoup à son frère aîné du reste. Bah, Amélien, il a sa place par qui il est. Puis d'un coup, je disais à mon mari, je dis, mais c'est vrai que notre deuxième là, tu vois, je me dis, je vais m'arranger pour prendre un peu plus de temps seul avec. Voilà, c'est des choses comme ça, des fois, faut sentir un petit peu de réajuster, de rééquilibrer. Je sais pas, c'est peut-être lié à mon caractère, mais je suis un peu maman louve. Alors, tu sais, j'ai un côté, comme mon fils, il y a quand même une fragilité en lui. Je te disais avant, il peut plus facilement tomber. Donc, j'ai un côté où je vais un peu des fois le surprotéger. Et puis, oh là là, faut pas en faire trop non plus, quoi. Le but, c'est qu'il s'épanouisse. Et des fois, Amélien, il me dit, laisse-moi, maman, je fais tout seul. Oui, je pense que je m'implique un peu trop, des fois. Voilà. Après, ça va, je ne suis pas non plus tout le temps sur lui, mais... Et les autres me rappellent à l'ordre.
Tout à l'heure, tu nous disais que donc avoir 3 enfants, c'était une évidence.
Ouais.
Mais est-ce qu'avoir un autre enfant, un 4e, après Amélien, c'était aussi une évidence ?
Ça, c'est the question. Non, je sais pas. La seule chose que je sais, Raphaël, c'est que je n'ai pas pu me débarrasser des affaires de bébé après Amélia. Souvent, je disais à mon mari, même quand Amélia était bébé, je peux pas m'imaginer m'arrêter ici. Alors, mon mari me disait, ouais, alors attends. Mais après, il m'a suivi, il m'a dit, bon, allez, si tu veux, on essaie. En tout cas, tu vois, quand ma fille, ma dernière est née, je me suis au fur et à mesure débarrassée des choses de bébé. Donc là, c'était clair que c'était la dernière. Mais Amélia, c'était pas clair. Donc, avant que j'aie Amélia, dans ma tête, c'était 3 enfants et pas 4. Voilà. Mais disons, notre dernière, Lénaëlle, n'a pas été un accident, quoi. Elle a vraiment été désirée, tu vois. Donc, c'est vrai que après Amélia, c'était une évidence. Avant, peut-être pas.
On parle souvent de l'enfant d'après, même si j'aime pas trop cette expression. Mm-hmm. Il y a des gens même qui parlent d'enfant pansement ou de choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu peur de vivre ou que tu as vécu comme ça à un moment donné?
Mm-hmm. Je vais te parler avec honnêteté. Je pense qu'il y a quelque chose où Lénaëlle est venue restaurer, en tout cas la grossesse. Alors nous, on a fait une grossesse, c'était un peu fou. On a décidé de ne faire aucune prise de sang.
D'accord, aucun test.
Aucun test. Donc, on a fait l'échographie morphologique. En tout cas, chez nous, on fait à 5 mois une grande échographie morphologique pour contrôler plein de choses. Ça, on l'a fait. Mais autrement, et notre gynécologue était OK avec nous. C'était clair qu'on n'allait plus se reposer la question de l'interruption de grossesse. Notre fils aîné, ce que je te racontais avant, quand on lui a annoncé la grossesse de notre 4e, la première chose qu'il a dit, vous allez le garder. J'ai dit oui, c'est sûr. Et il m'a dit, ah, parce que moi, je rêve d'avoir une petite sœur trisomique, maman. Et après, j'ai dit, ah bon? Puis il m'a dit, bah oui, tu vois, il faut qu'on fasse l'équilibre dans la famille. Donc lui, c'est un mathématicien, tu vois. Mais il nous a fait rire. Donc, on n'a fait aucun test. Après, la grossesse s'est très bien passée. Quand il est venu à la maternité, notre aîné, il m'a dit, ah, elle n'a pas la trisomie. J'ai dit, non, ah, c'est pas grave, je l'aime quand même, tu sais. Mais c'est vrai que j'ai pu vivre une grossesse, tu sais. J'étais dans la joie du début. Alors, ouais, peut-être des fois, j'avais une petite crainte qui revenait par-ci, par-là. Mais tu sais, c'était... Ouais, voilà, on a essayé de me voler la joie pendant la grossesse d'Amélia. Eh ben, je la récupère. Mais après, c'est pas pour ça que j'ai eu Lénaëlle. Je peux pas dire ça, quelle horreur. Elle avait sa place. Et on dit souvent que c'est notre cerise sur le gâteau. Elle est venue compléter. Fait du bien à Amélia. Ils sont très complices. Mais oui, j'ai vécu quelque chose de l'ordre de la restauration, ça c'est évident.
J'aime bien ce terme plutôt que réparer.
Ouais, réparer, j'aime pas.
Et avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Myriam d'il y a donc presque 8 ans, c'est ça ? Qui venait d'apprendre que le bébé dans son ventre avait un chromosome supplémentaire.
J'aimerais lui dire c'est normal de pleurer. C'est normal d'être triste, de faire ce deuil. Il faut le vivre, parce que c'est un deuil, clairement. Mais ma cocotte, qu'est-ce que tu vas être heureuse.
Et à toutes les personnes qui pensent que tu n'as pas de chance d'être maman d'un enfant porteur de trisomie 21, tu aurais envie de leur dire quoi?
Mais j'en ai... Tu sais, moi, j'ai quand même souvent entendu, hein, pendant la grossesse, on le disait aux gens. Tu vois, quand les gens te disent « Et tout se passe bien ?» Puis toi, tu es là, tu dis « Bah non, en fait, il y a une trisomie 21. » Et les gens, après, « Ah, vous le gardez ?»« Ah, je sais pas comment vous faites, nous, on n'aurait pas pu. » Ça, je l'ai entendu, quoi. J'ai des fois des gens qui me disent « Mais ça doit quand même être difficile. » Puis toi, t'as beau leur dire « Non, ça va. » Non, mais quand même. Donc, des fois, je sais pas, est-ce que les gens projettent des choses, tu sais, aussi sur nous. C'est aussi, des fois, au début, je me fâchais avec ces gens-là. Puis après, c'est vrai qu'on se disait avec mon mari, mais en fait, on ne sait pas le vécu des gens. Tu vois, peut-être la femme, un jour, que je rencontre dans la rue, qui me dit ça. Bah, elle a peut-être fait un autre choix dans sa vie, donc c'est aussi difficile de se dire tu peux être heureuse, tu vois, c'est délicat, quoi.
Tout à fait.
C'est vrai que moi, jusqu'à mon dernier souffle, je vais dire que voilà, c'est du bonheur, quoi. Beaucoup de bonheur. Et puis après, la parentalité, en fait, moi, j'ai un truc qui me dérange, c'est qu'on fait croire, on vit dans une société, on te fait croire que parce que ton enfant a 46 chromosomes, que ça va être facile. Mais qui dit
c'est
ça,
clair.
Quoi. Je crois qu'on a les épaules pour nos enfants. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Je ne sais pas si c'est clair de dire ça comme ça, mais je pense que voilà, les enfants qu'on a, qui nous ont été donnés, qu'on a fabriqués, sont nos enfants et on a les épaules pour les éduquer, en faire des hommes et des femmes forts, avec avec les épaules pour supporter les épreuves de la vie. Moi, c'est vraiment ça. Et là, c'est vrai que je me dis, bah, nos enfants, ils grandissent avec un petit frère différent. Ils connaissent la différence et ce n'est pas un problème. Et c'est des enfants qui sont, voilà, qui vont être à l'aise avec la différence, qui vont, je ne sais pas, moi, je reviens souvent à mon fils aîné, mais oui. C'est vrai qu'il est très proche d'Amélien aussi. Et il nous a dit une fois qu'il aimerait avoir un enfant comme Amélien, tu vois, pour te dire, il n'y a pas de... Et on n'est vraiment pas le genre de parents à induire ce genre de paroles dans la bouche de nos enfants, mais nos enfants ne comprennent pas pourquoi les autres pensent que c'est dur, notre vie. Oui. Et encore ce week-end, notre fille, elle avait un week-end avec les scouts, puis une copine dit à une autre qui est en train de se balancer, elle lui dit « Ah, mais arrête, on dirait une personne trisomique quand tu fais ça. » Ouais, elle lui dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Puis cette copine lui dit « Mais tu sais, j'ai vu une fois un trisomique qui faisait ça. » Puis là, ma fille lui dit « Mais tu sais, mon petit frère, il a la trisomie 21. » Et puis elle lui dit « Mais il n'est pas du tout comme ça, il sait lire. Et puis il prend plus de temps, mais il fait les choses comme toi et moi. » Et j'ai dit, mais c'est génial.
Ouais.
J'ai dit à ma fille, mais tu vois, t'es porte-parole de la vérité, enfin de notre vérité. Et puis c'est important d'éduquer les uns et les autres à ça aussi. Donc je me dis, ben, ça rend quand même une société qui est plus belle parce qu'on éduque des enfants qui sont plus ouverts aux différences. Et on est tous différents, disons-le. Hein. Et on a tous des limites et des handicaps. Moi, je le dis, hein, je suis sur certains aspects dans ma vie, il y a des handicaps où je ne vais être pas du tout à l'aise. En société, suivant comment. C'est vrai qu'Amélien, du coup, depuis son arrivée, ben, j'ai dû beaucoup plus m'ouvrir, moi qui étais de nature plus réservée, quand je ne connais pas, disons.
Et ouais, finalement, c'est un petit peu un cadeau, quoi.
Ouais, vraiment.
Myriam, merci infiniment pour ce joli moment ensemble. Merci d'avoir accepté et merci de nous apporter ce joli témoignage qui montre à quel point l'arrivée de la trisomie 21 dans une fratrie n'a pas à être un drame.
Mais merci à toi, Raphaël. Quel privilège énorme de pouvoir... Puis quel honneur. Moi, j'étais très honorée hein, que tu me demandes de faire ce podcast. C'était un très beau moment. Merci infiniment, Raphaël.
Avec plaisir. À bientôt, Myriam.
À bientôt.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Et rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas.